Habillez-vous républicain, comme dirait l'autre, enfilez le bonnet phrygien. Soyez républicaine, tiens, seins nus, buste devant, drapée de rouge, de bleu, de blanc, fière et puissante. À la mode de Marianne, soyez sans culotte ou militaire, comme les cadres de l'armée républicaine, avec votre arme dressée, un fusil, un glaive, une épée, dénudez-vous pour la République. Après tout, ces coups et décolletés nous montraient à l'époque le panache de ne pas avoir été décapité. Ou bien, soyez plus sobre, habillez-vous républicain, c'est-à-dire d'une manière qui convienne à tout le monde et ne heurte personne. Essayez l'uniforme, celui, comme nous le rappelle Gilles Denis du journal Le Point, de nos instituteurs hussards, tout habillés de noir, sorte de moines républicains qui nous ont inculqué sans le savoir, ces anciens, le rêve un peu fou qu'il suffirait d'un habit sans couleur pour effacer les fractures sociales. Pour s'habiller républicain, il faudrait donc abolir la fantaisie, la folie, la fierté d'avoir obtenu de faire comme il nous plaît sans pour autant être jugé ou réifié. Mais alors qui de nos décolletés, de nos nus, de nos drapés, quid du bonnet phrygien, comment diable s'habiller républicain ?
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-elle venue en habit républicain ? Romancière, philosophe, essayiste passionnée de mythologie, de culture, de politique. Elle publie cette rentrée son Musée des sorcières, une étude enflammée, passionnante, savoureuse, où elle revient sur cette figure fascinante, objet de tous les fantasmes et de toutes les persécutions, la sorcière. Bonjour Catherine Clément.
Bonjour Augustin.
C'est pas vous que je traite de sorcière, quoique.
Quoique.
On verra. Merci d'être là en tout cas. Avant toute chose, la tenue républicaine, cette expression à laquelle personne n'échappe en ce moment, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça me rappelle la blouse. Moi, je suis au lycée, j'ai 81 ans quand même, donc j'ai connu.
Vous portiez la blouse ?
Mais pas noire, elle était grège, avec des décorations rouges, c'était pas vilain.
Et vous êtes favorable à un retour à la blouse ?
Non, je crois que c'est pas possible.
Pourquoi, à votre avis, Catherine Clément, semble-t-elle s'adresser spécifiquement aux jeunes filles, cette expression de tenue républicaine ? C'est ça qui m'a fasciné, moi.
Je crois vraiment que le patriarcat français est encore bien dans ses chaussettes, il me semble. Mais ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est cette histoire de nombril. Parce que en France, donc, il est interdit de montrer son nombril. Mais en Inde, c'est exactement le contraire. On ne montre pas ses mollets, pas ses cuisses, pas ses jambes, mais on exhibe le nombril et on y met un bijou dans le nombril.
Vive les crop tops, Catherine.
Oui, absolument. Ça se rapproche du sari.
Ça se rapproche du sari. Encadrer et réglementer le vestiaire féminin, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous en parlez dans votre livre. En 1800, par exemple, on interdit aux femmes de porter le pantalon. Pour quelle raison, il faut nous raconter ?
Pour quelle raison, je ne sais pas trop, parce que ça ressemble aux hommes et qu'il faut pas ressembler aux hommes. Mais on interdit, même pendant l'hiver 54, où il faisait si froid, interdiction de porter des bas, interdiction de les collants n'existaient pas, donc la question ne se posait pas. Et jupe courte, je ne sais pas si vous imaginez, il faisait moins 20 quand même. Et c'était au lycée Victor Duruys, toutes les lycéennes ont connu le froid sur les cuisses de cet hiver 54.
Mais c'est intéressant parce que vous nous racontez, vous nous apprenez dans le Musée des sorcières que cette loi n'a été abrogée qu'en 2013.
Oui,
en réalité,
c'est drôle,
comment
ça,
c'est possible ?
Parce que l'administration a des somnolences comme ça, elle a des inconscients. Et puis il y a quelqu'un qui se réveille à un moment donné qui dit « Eh, oh là, ça ne va pas ». Et c'est ce que je crois qu'il s'est passé pour ça.
Mais seulement, et c'est ça qui est intéressant, l'existence fantomatique d'une loi comme celle-ci dans le droit français nous rappelle quelque chose du statut des femmes et de la manière dont leur corps est considéré dans notre société, dans notre espace public, non ?
Oui, enfin, on a quand même fait pas mal de progrès depuis.
Certes.
Soyons pas trop passéistes quand même.
Non.
Non, et c'est drôle parce que cette loi sur le pantalon, qui donc est abolie en 2013 seulement, elle a laissé passer entre-temps toutes les pantalonnades possibles de Yves Saint Laurent. Je ne parlerai pas de Coco Chanel que je déteste, mais enfin bon.
Et pourquoi vous la détestez, Coco Chanel ?
Ah mais attendez, comme antisémite, on fait pas mieux. Vous le savez bien, tout le monde le sait. Mais j'ai découvert en lisant Télérama cette semaine que c'était encore bien pire que ce qu'on croyait de Coco Chanel. C'était bien plus qu'antisémite. C'était la haine incarnée.
Catherine Clément, pourquoi le corps des femmes fait-il systématiquement l'objet d'un encadrement, d'une réglementation, d'une législation ?
Soyons justes, celui des hommes aussi. Il y a bien un Marc Bauger qui définit des critères pour les hommes. Là, une mode masculine, vous avez une barbe, par exemple.
Ouais.
La barbe, c'était très très rare. Dans mes 20 ans, il y avait très peu de gens qui portaient la barbe.
Vous ne diriez pas que mon corps est plus encadré que le corps d'une femme ?
Non, vous avez
quand
un
même.
T-shirt, ça va ?
Non, mais sérieusement.
Non.
Non ?
Non. Puis je dirais que ça n'a pas tellement d'importance, tout ça.
Pourtant, vous en parlez du vêtement beaucoup dans votre livre.
Beaucoup, oui. Puis j'y accorde beaucoup d'importance au vêtement. Oui, oui.
Donc ça dit quelque chose.
Oui. Marthe a essayé, il a écrit un système de la mode totalement raté, hélas. Parce qu'il l'a fait de façon extrêmement.
Vous êtes une terreur ce matin, Catherine.
Bah, écoute, oui, je commence à avoir. Bon, je peux. Non.
C'est quoi, au fond, une sorcière?
C'est une femme qui dérange et qui est dénoncée. En gros, c'est ça. Alors, ou elle est très belle, ou elle est trop vieille, ou elle a un nystagmus, ou elle a les yeux verts, ou elle est rousse. Ça, là, les rousses. Doivent craindre énormément.
Alors dans votre livre, vous dites qu'elle menace l'intégrité du phallus. C'est une idée qui surgit avec beaucoup de panache à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste?
Oui, elles échappent. Elles échappent. Elles échappent tout court. Hein, j'ai pas dit elles s'échappent, mais elles échappent.
Non, vous dites qu'elles menacent l'intégrité du phallus.
Oui, bah, ce qui échappe menace l'intégrité du phallus de toute façon.
Ah bon, on le saura ce matin, du coup.
Oui, oui, écoutez, ben ça va. J'essaye de défendre les hommes, mais vous me poussez dans les retranchements inverses. Ça ne va pas, ça.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire, au juste?
C'est ce que je veux dire au juste, c'est qu'elle montre une puissance, une droiture aussi, une énergie. C'est surtout l'énergie. Une énergie qui n'est pas le niveau moyen. Alors ça peut venir de tas de raisons, hein. ça peut venir d'un traumatisme de naissance, ou bien ça peut venir de l'histoire, ou ça peut venir simplement d'une bonne nature, comme on disait autrefois. Hein. Mais ça dérange en tout cas.
Et ça implique qu'on les brûle, tout simplement, qu'on les torture, qu'on les tue.
En Europe, ça implique qu'on les brûle. C'est très curieux, parce qu'en Angleterre, on les pend, et à Salem aussi, on les pend. Mais dans toute l'Europe continentale, on les brûle. Je trouve d'ailleurs qu'il devrait y avoir un mémorial en France. Il y en a un en Norvège, très beau, qui a été fait par Louise Bourgeois. Et je trouve qu'on devrait faire dans le Pays Basque, qui a quand même payé. Les 80 sorcières ont été brûlées quand même. Hein. Je trouve qu'on devrait faire un mémorial pour réhabiliter ces sorcières.
Dans quelle mesure pourrait-on dire, par exemple, que les victimes de féminicides aujourd'hui, 66, on le rappelle, en France depuis le début de l'année, sont les femmes qui hier étaient exécutées publiquement pour sorcellerie?
Ce sont des victimes, celles qui sont exécutées, celles qui sont tuées. Ce ne sont pas des sorcières, ce sont des victimes absolues. Non?
Ah si, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est juste ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est la quand on tue des femmes, en fait, ce que ça implique, vous voyez? La mort d'une femme, ce que c'est? Ce que ça
la
veut
mort
dire.
D'une femme est inscrite dans la tradition humaine depuis des temps immémoriaux.
Ben c'est
même.
Ça, oui.
Je sais pas si, vous avez vu que j'ai consacré une grande place à Carmen, cet opéra qui fait pleurer tout le monde, et dont les paroles sont en effet les paroles des gens de tous les jours, pratiquement tout le temps, et surtout dans la dernière scène. On va pleurer devant un féminicide quand même, avec Carmen. Et le type, il a le droit de la tuer. La seule chose qui, bon, le petit inconvénient, c'est qu'il sera pendu. Mais enfin, il a le droit de la tuer.
Alors à la fin du XVe siècle, vous le racontez, paraît le Marteau des sorcières, un ouvrage fondateur qui va servir de manuel à l'Inquisition pour traquer les sorcières. La lecture de ce livre, qu'est-ce que ça vous a appris, Catherine Clément?
Oh, d'abord, l'invraisemblable fatras, le foutoir des argumentations théologiques, c'est absolument hallucinant à lire de près, puisqu'il n'y a pas d'argumentation quand il y a, par exemple, il y a toute une démonstration pourquoi seules les femmes sont sorcières. Ça, on le sait d'avance, puisqu'un pape avait promulgué ça, avait fulminé une bulle pour le dire. Mais pour le démontrer, il y a des moments où les inquisiteurs ne savent pas quoi dire, très souvent. Ils disent, on ne sait pas quoi dire, mais les voies de deux sont impénétrables.
Mais alors, quels sont les critères pour qu'une femme soit accusée de sorcellerie?
Qu'elle ne pleure pas, si elle n'arrive pas à pleurer. C'est une des épreuves. Hein. On met la sorcière devant le juge, on lui dit, si tu es innocente, pleure. Si tu es sorcière, ne pleure pas. C'est pratique. Hein. Si elle ne coule pas au fond de l'eau, si elle est taciturne, si elle se tait. Alors vous pensez à toutes les femmes, vieilles ou jeunes, qui parlaient une langue qui n'était pas la même langue que l'inquisiteur, évidemment elles se taisent. Elles n'ont pas les mots pour entendre, elles n'ont pas les mots pour répondre.
Et si elle avoue, il se passe quoi?
La même chose. Il se passe la même chose. La sorcière est absolument fichue d'avance. Alors si, il y a dans le Marteau des sorcières une ou deux anecdotes où les deux inquisiteurs s'indignent du fait qu'une sorcière ait échappé. Mais enfin bon.
Donc elles étaient coupables. De toute façon.
Oui, mais elle a échappé quand même. Elle vit encore. Échapper veut dire vivre.
Mais c'est ça que je voulais vous demander. En quoi ce livre a-t-il laissé des traces jusqu'à aujourd'hui, en fait, dans notre inconscient collectif?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Avenue René Coty, il y a, vous savez, les colleuses font des phrases en ce moment. Nous sommes les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. C'est apparu récemment, ça. Tout récemment, la semaine dernière. Il y a Il y a eu un truc épouvantable destiné à Marlène Schiappa, Schiappa au bûcher. C'était pendant les Gilets jaunes, j'ai adoré. Hein, Schiappa au bûcher, c'est formidable. Pourquoi ? Elle est rousse, qu'est-ce qu'elle a fait de mal, hein ? Et puis, il y a maintenant une revendication sorcière. Il y aura bientôt un ordre des sorcières.
Vous en serez, Catherine
Clément ? Je ne sais pas.
Ah, peut-être. Cette figure de la sorcière, pourquoi est-ce qu'elle vous intéresse autant ?
Elle m'intéresse depuis toujours. Je crois que pendant la guerre, je veux dire pendant l'occupation allemande, il y avait une vieille dame avec une cape qui habitait pas loin de chez moi, et que les enfants autour de moi, et moi donc enfant avec eux, on désignait comme sorcière pour jouer. Je pense que ça vient de là. Alors cette sorcière en cape rouge, elle avait une cape rouge en plus, elle condensait en elle toute la frousse qu'on avait, parce que quand même le village a été occupé par les Allemands à certains moments.
Et vous dites aussi que votre mère était une sorcière.
Oui, elle était pharmacienne. C'est une forme sorcière.
C'est une forme de sorcellerie.
C'est une sorcellerie domestiquée.
Et vous, alors ?
Moi, je cuisine.
Ce serait ça votre pouvoir ?
Oui.
De sorcière ?
Je cuisine bien.
Et si on se penchait tous les deux sur la petite cuisine de la culture ce matin ? Après tout, on est vendredi.
C'est une bonne idée.
La culture est son actualité à abracadabra. Madame Mime et Hocus Pocus. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 25 septembre ?
Ma sélection de livres pour Noël, ça serait de proposer Harry Potter 1, parce que c'est un des premiers livres qui m'a vraiment marqué dans ma lecture.
J'aime bien ce livre parce que à chaque fois, à la fin d'une histoire, c'est très drôle.
Montreuil, bon pied, bon oeil, grand rendez-vous annuel de la littérature jeunesse. Le Salon de Montreuil a annoncé hier que son édition de décembre 2020 aura bien lieu, adaptée aux nouvelles contraintes. L'événement proposera des expos en plein air, une chaîne de télé spécialement créée pour l'occasion et des rencontres hors les murs, en librairie, bibliothèque ou école dans toute la France. Le Salon en a profité pour lancer son appel à candidature pour les jurys d'enfants qui éliront les pépites de l'année. Alors toi le jeune, qui a entre 8 et 18 ans, c'est ton moment.
Alors donc, je vais le lever en filet, je vais faire des médaillons de 30 à 40 grammes, qui va être cuit, très pré-cuit, vous voyez, à peine cuit, avec des légumes.
La crème de la crème, figure emblématique de la cuisine française, le chef Pierre Troisgros est mort mercredi près de Roanne, dans la Loire, où il avait son restaurant mythique, 3 étoiles au Michelin depuis 1968. Il avait participé, avec son frère Jean Troisgros, à faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'une des destinations phares de la gastronomie mondiale. Proche de Paul Bocuse, Pierre Troisgros restera comme le fer de lance d'une nouvelle cuisine innovante, créative, tout en simplicité, en légèreté. On lui doit notamment la recette culte de l'escalope de saumon à l'oseille. Salut chef.
Je pense qu'il n'y a aucun livre indispensable. J'aime pas quand une critique dit « il faut lire ce livre, vous devez l'avoir lu, un livre indispensable ».
Lisez pourtant Villeminot, lisez Écolo, le prix du roman d'écologie 2020 a été décerné hier à Vincent Villeminot pour « Nous sommes l'étincelle », publié aux éditions Pocket Jeunesse, fresque d'anticipation sur l'urgence et la révolte. Le roman met en scène des groupes d'adolescents qui choisissent de se retirer en forêt pour fuir notre société et l'irresponsabilité de leurs aînés. Décerné par un jury composé pour moitié d'étudiants, le prix avait été attribué l'année dernière à Serge Joncourt. Go Green! Et enfin, figure-toi qu'on l'a coco, Catherine, véritable phénomène R&B de l'été. La chanteuse Weshden, 16 ans seulement, livre aujourd'hui son premier album studio, sobrement titré 16 et porté par les tubes Anissa et Coco. 100 millions de vues sur YouTube, l'opus mix punchline, badass, beat entraînant, esthétique acidulée. Et pour faire monter la sauce, son équipe fait courir des rumeurs de collab en préparation avec Aya Nakamura ou Jul. Et ça fait Zumba Caféa. Alors souris, bouge ton body, c'est vendredi, Coco. Et Catherine Clément, très étonnée, invitée de Boomerang ce matin pour le Musée des Sorcières, cet essai où j'ai appris que la chasse aux sorcières dure environ 3 siècles et cesse en 1682 grâce à Madame de Montespan, favorite de Louis XIV. Catherine Clément, qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais il s'est passé qu'elle a duré longtemps, Madame de Montespan, comme deuxième favorite, puisqu'il y a eu la Vallière avant, qu'elle a fait 7 enfants à Louis XIV. Elle est donc à peu près indélogeable et qu'à la fin, comme elle a quand même cette grossesse, elle a dû quand même avoir grossir un peu. Hein. Et elle a recours à des magiciennes pour s'améliorer, disons, ou ressusciter ressusciter le phallus de Louis XIV.
Ah.
Ben oui. Et c'est l'affaire des poisons que vous connaissez par cœur, que tout le monde connaît.
Racontez-la nous quand même.
L'affaire des poisons, c'est le bavardage de femmes de magistrats qui expliquent comment elles ont trouvé quelqu'un d'épatant pour leur fournir des poisons pour empoisonner leur mari. Donc ça commence dans la magistrature française. Puis de la magistrature, ça va dans la noblesse. Puis ça va à la cour. Et quand quand Colbert et Louis XIV entendent qu'il y a Madame de Montespan est citée, ils arrêtent tout. Colbert fait un mémoire en défense de Madame de Montespan, ce qui n'est quand même pas triste.
Ouais.
Quand même pas triste. Et il promulgue sur ordre de Louis XIV, une ordonnance générale interdisant les procès de sorcellerie. C'est ça le grand tournant. L'interdiction totale des procès de sorcellerie.
Pour autant, les sorcières ne disparaissent pas totalement.
Non, parce qu'il y a des, non, parce que ça met du temps. D'abord, les parlements de province appliquent ça lentement, très lentement.
Et puis certains ont considéré que les hystériques étaient des sorcières également. Pendant très longtemps.
Hystérique, sorcière, c'est pratiquement la même chose.
Pour quelle raison?
Parce que ce sont des femmes qui dérangent. La même chose toujours. Ce sont des femmes dotées d'une énergie singulière et qui dérangent.
Et puis aussi à cause du corps qui convulse, qui se tord.
Oui, ça, c'est des femmes de cirque. J'appelle ça les circassiennes. Les circassiennes, parce que ce sont comme des acrobates de cirque. Et c'est la même énergie. Puisque chaque fois qu'il y a eu des convulsions ou des acrobaties, elles en sortent divinement bien.
Avec une possibilité de simulation, c'est ça que vous
dites? Non, pas du tout. C'est une énergie spécifique, ça, à l'hystérie, à la folie, et qui n'est pas du tout, non pas du tout. Mais elles ne sont pas fatiguées après.
Ouais.
C'est ça le critère.
En tout cas,
elles ne sont pas fatiguées.
Ce que vous écrivez sur la possession m'a fait penser à un autre de vos livres qui s'appelle « Faire l'amour avec Dieu » qui portait sur les mystiques. Vous nous parliez de personnages qui aspiraient à un rapport direct avec Dieu et qui entraient en transe, persuadés d'être pénétrés ou possédés par le Seigneur. Et si la sorcière était une mystique, Catherine Clément?
Ça peut arriver. Il peut arriver que Thérèse d'Avila se demande si elle n'est pas une sorcière à certains moments. Elle se demande si dans ses constructions imaginaires, elle n'a pas cédé aux démons. Bon, ça ne dure pas très longtemps. Mais enfin, on comprend très bien qu'elle désigne une partie du corps qui doit être affectée par le sexe et qu'il faut oublier cet épisode. Mais elle sait ce que c'est. Ça n'est pas de se masturber, par exemple. Ça doit être ça qu'elle désigne. Et c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire, selon elle. Je n'ai pas essayé.
Ce qui est intéressant, c'est que la religion, les croyances sont des sujets qui vous ont toujours absolument passionné, vous. Cet intérêt pour le religieux, le sacré. Comment il est né, vous, qui par ailleurs n'êtes pas croyante, Catherine Clément?
J'ai été croyante un certain temps. Je ne l'ai plus été ensuite. Mais je crois que ça vient tout simplement de ce que pendant la guerre, j'étais une petite fille juive, pas cachée, mais vivant dans un village chrétien, catholique, qui s'était très bien comporté. Et contrairement à la ville d'à côté qui s'est très mal comportée, elle, qui est la ville de Saumur, ça c'est autre chose. J'ai été frottée dès l'enfance à des menaces sourdes, mais réelles. Et je pense que c'est ça tout simplement.
Oui, et ce que vous nous montrez au fil des livres, c'est aussi que cette puissance avec laquelle les croyances, quelles qu'elles soient, agissent sur l'esprit humain, cette emprise en fait, à quoi l'attribuez-vous? Comment est-ce que vous l'expliquez?
Feuerbach dit ça très bien. Moi, je pense qu'on se fabrique des dieux. On a besoin d'en fabriquer. D'ailleurs, vous fabriquez des idoles à tire-larigot dans vos émissions. Vous,
ah bon,
tout le temps. Tout à l'heure.
Si ça se trouve, les auditeurs vont vous considérer comme une idole après. Mais vous préféreriez être considéré comme une sorcière, je vous connais.
Et si vous étiez sorcier, vous? C'est ça que vous faites.
Ouais, je ne sais pas quel serait mon pouvoir, je peux vous dire.
Fabriquer des idoles, précisément. Le contraire, comme le père d'Abraham. Si...
Pourquoi a-t-on besoin de croire?
Parce qu'on n'a rien de mieux sous la dent. Mais quand on est passé par une psychanalyse, une vraie, on n'a plus ce souci-là. On n'a plus du tout le souci de pourquoi je crois. Ça n'a plus d'importance. C'est vraiment un cadeau de l'analyse.
Mais il n'y a que l'analyse qui peut nous permettre de vaincre ces croyances qui peuvent nous conduire jusqu'au fanatisme.
Non, je ne pense pas. Je pense qu'une grave maladie peut faire la même chose. Je pense qu'un isolement dans un pays lointain peut faire... Il y a des expériences comme ça qui peuvent faire la même chose. Mais l'analyse, c'est une méthode pour ça.
Ça vous a sauvé, vous?
Ah oui. Ah oui, et ça m'a sauvé du mutisme. J'étais quand même maître de conférence à la Sorbonne. Je pars en mission du Parti communiste, ça paraît invraisemblable, en 1972, et visite obligatoire du camp d'Auschwitz, où sont morts mes grands-parents. Et à la sortie, plus un mot. Donc mutique, j'étais vraiment muette, privée de parole. Ce qui quand même est un inconvénient professionnel quand on est prof.
Combien de temps?
Combien de temps quoi?
Le mutisme?
Deux mois, tout de même.
En quoi est-ce que vous croyez, Catherine Clément?
En rien.
Moi, vous me connaissez, j'ai envie qu'on prie ensemble ce matin. Ah bah oui, une communion particulière avec la formidable Kate Bush. Army Dreamers, en 1980, sur l'album Never Forever, vous êtes sur France Inter avec Catherine Clément. Donc, vous écoutez Boumang, on est vendredi.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Voilà quelque chose de la tête couronnée, hein, quelque part entre Victoria, Catherine II et Marité. Le port royal, l'œil circonspect, le profil aristocratique et l'assurance. On a envie qu'elle nous prenne par le bras pour nous emmener faire un tour dans le jardin tout en chuchotant gaiement des obscénités entre deux parties de croquets et deux tasses de café, tout en col roulé et petite tunique et patchwork avec des miroirs partout. J'ai l'impression d'être regardée de tous les côtés. Ça doit être un truc de sorcière. Catherine Clément, invitée de Boomerang pour ce livre, Le musée des sorcières, qui a le mérite de ne pas rester entrer sur l'Occident. En fait, vous parlez notamment avec passion hein, de la situation des femmes en Inde, pays où vous avez longtemps vécu. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec ce pays, Catherine ?
Très mauvaise aujourd'hui. Parce que en 1990, j'ai vu naître un parti qui maintenant est au pouvoir et qui est un parti fasciste. Et dont l'ambition déclarée est de se débarrasser des musulmans.
Et ça, vous l'avez vu ?
Ah, je l'ai vu naître ! J'ai lu là, c'est parce que le type qui a lancé ce parti, qui est peut-être le parti du peuple, bon ça c'est pas, c'est ça ne signifie rien, a fait un long pèlerinage de quelques mois et j'ai gardé les collections de papiers de journaux qui mentionnaient le nombre de musulmans tués sur son passage. Et c'était bien ça qu'il voulait. Alors ça a été dit par un leader à Bombay qui a dit ce que Hitler a fait aux juifs, nous allons le faire aux musulmans. Ils sont quand même 150 millions. 150 millions. Alors, la question n'est pas islamisme ou pas islamisme, la question est qu'il y a là 150 millions d'êtres humains qui sont en danger grave. Parce que explicitement, on construit des camps pour les internés, explicitement, on leur enlève leur citoyenneté, ce qui quand même n'est pas rien, donc c'est un véritable fascisme. C'est une Inde que j'aborde. Et je l'ai tellement connue autrement, je l'ai tellement connue généreuse, j'ai tellement connue humaniste. C'est une désolation.
Moi, ce que j'entends quand même dans ce que vous dites, c'est aussi cette profonde curiosité pour l'autre que vous avez. Cette curiosité, d'où elle vient? Comment elle s'est développée, Catherine Clément?
Ah, je suis incapable de vous le dire, ça.
C'est vrai?
Ça, pour le coup, je ne sais pas.
Vous êtes née à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez passé vos premières années en Anjou, où une partie de votre famille se cachait. Cette période, celle de vos
non,
premières années...
Non, il ne se cachait pas là.
Il ne se cachait pas?
Non, pas en Anjou.
Où?
À Paris. Oui.
Cette période, vous l'avez pas oubliée. Quel souvenir est-ce qu'elle vous a laissé?
Ah ben des bombardements qu'on reçoit sur la figure, c'est-à-dire un obus qui vous frôle, c'est pas rien. Les grands bombardiers américains qui remontaient sur la Loire en 43 ou en 44 et qui lâchent leurs bombes partout, ça n'est pas rien. Donc les bombardements allemands, les bombardements alliés, ça marque.
Vous les entendez encore?
Ah oui. Je suis pas seul. Tous les gens de ma génération ont ces souvenirs. On leur donne peu l'occasion d'en parler. Très peu.
Vous diriez que ça a fait de vous la femme que vous êtes?
Oui, certainement. Sans aucun doute.
Vous écrivez aussi, Catherine Clément, dans le Musée des Sorcières, que c'est à cette époque, pendant la guerre, que vous avez appris à grimper aux arbres.
Oui, c'est vrai. C'est un peu plus tard, quand même, ça.
Quelle petite fille est-ce que vous étiez?
Un trouillarde.
Trouillarde?
Pour monter aux arbres, j'avais une peur absolument
folle. J'arrive pas à l'imaginer, moi.
Quoi? Si. Mais je le faisais quand même. Mais j'avais très, très, très peur de tout. Je pense que c'est ça qui m'a fait telle que je suis aujourd'hui.
Mais vous vous laissiez intimider par les interdits?
Ah non, jamais. Mais.
Bah voilà.
Vous parlez de petite fille. Petite fille, oui.
Qu'est-ce qui vous fait peur, Catherine Clément?
Fascisme. Sous toutes ses formes.
Aujourd'hui aussi?
Pas en France. En Inde, oui. Aux États-Unis, oui. J'ai très peur d'une guerre civile aux États-Unis. Je pense que les États-Unis sont en train de crever d'angoisse et de frôler justement le fascisme également. Les États-Unis et l'Inde, c'est deux grands pays. La Chine, c'est même pas la peine d'en parler. Donc je trouve que le fascisme est en train de remonter partout, enfin, dans des pays imprévisibles, dont les États-Unis.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
D'abord, pour l'instant, on les soutient. On soutient les autres. On soutient ceux qui se battent contre. Et en attendant l'élection de Trump, on verra.
C'est un texte sur aujourd'hui que vous avez choisi de nous écrire ce matin. Un texte que j'aimerais que vous nous lisiez, si vous le voulez bien.
Ça va pas être simple, hein, à lire. Mes grands-parents juifs ont été dénoncés en avril 1944 par un bedeau et un chevalier français. Georges et Sipa, c'était leur nom, suivirent le chemin de Drancy à Auschwitz et moururent au mois de mai, aussi vite que possible, j'ai calculé environ 20 minutes sur place. Ma mère, pharmacien à Paris, fut dénoncée en 1944 par la pharmacie d'à côté pour collaboration avec l'ennemi. C'était parfaitement vrai. Le médecin des services secrets allemands la prévenait chaque fois qu'elle allait être arrêtée par la Gestapo, et après la libération, la pharmacie d'à côté a considéré cette dizaine de sauvetages comme une faveur. Non, ce médecin de l'Abwehr était juste un Allemand, et injuste avec une majuscule. Plus léger. Pendant le confinement, au printemps dernier en Anjou, mon frère a été dénoncé par une lettre envoyée à la mairie parce qu'il avait fait 1 kilomètre hors de son périmètre légal. Les Français, il faut dire, ont la passion de la dénonciation. C'est pourquoi j'ai toujours un frisson dans le dos quand je vois se mettre en marche la mécanique américaine du name and shame, nommer et faire honte à celui ou celle que l'on veut dégommer. Oui, je sais que c'est bien quand il s'agit d'une firme, d'une entreprise ou d'un fabricant que l'on veut critiquer. D'accord. Mais quand name and shame s'applique à des personnes individuelles, je suis prise d'une frayeur incontrôlable venue de ces années-là, les années 40. Et puis en écrivant ce livre sur les sorcières, j'ai vu, les archives en témoignent. Excusez-moi. Qu'une femme supposée sorcière était toujours dénoncée par un voisin, ou une voisine, ou une sœur du même couvent, ou un prêtre, on a le choix. Nous ne sommes plus au XVIIe siècle, et les bûchers sont bien éteints. Mais je ne supporte plus cette atmosphère de dénonciation quotidienne. Je sais bien qu'elle a souvent pour but, c'est ce qu'on dit, de protéger les femmes des agressions masculines. Cela ne me console pas. Cela reste une parole de dénonciation. J'ai été prudente et gentille, hein. J'ai employé le mot « dénonciation ». Mais le vrai mot est « délation ». Et ça, non merci, sans moi.
Merci, Catherine Clément, pour ce texte très fort, qui explique pas mal de choses sur vous aussi, je crois. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que le Musée des Sorcières vient de paraître chez Albin Michel. C'est une lecture absolument éclairante, truffée de savoir et de piquant aussi. Je voudrais remercier toute l'équipe de Boomerang cette semaine, pour le moins étrange cette semaine, tout en fantôme, Lola Costantini, David Leprince, mais aussi Léo Bio, Pierre Démé, Pablo Cotten et Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite, le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier, juste après ça.
Thank you. dire ce que j'ai fait, comme si de rien n'était. En automne, en hiver, au printemps, c'est l'été. Personne n'est parfait, alors je te pardonne ce que t'as fait. Aime en retour ce qui t'aime en secret.
La lune et le soleil, Bonnie Balan sur France Inter.